Marcel Proust, à propos de Baudelaire. La Nouvelle Revue Française, 1921. Mon cher Rivière, une grave maladie m'empêche malheureusement de vous donner, je ne dis même pas une étude, mais un simple article sur Baudelaire. Tenons-nous-en, faute de mieux, à quelques petites remarques. Je le regrette d'autant plus que je tiens Baudelaire, avec Alfred de Vigny, pour le plus grand poète du XIXe siècle. Je ne veux pas dire par là que s'il fallait choisir le plus beau poème du XIXe siècle, c'est dans Baudelaire qu'on devrait le chercher. Je ne crois pas que dans toutes les fleurs du mal, dans ce livre sublime mais grimaçant où la pitié ricane, où la débauche fait le signe de la croix, où le soin d'enseigner la plus profonde théologie est confié à Satan, on puisse trouver une pièce égale à Beaux endormis. Un âge entier de l'histoire de la géologie s'y développe avec une ampleur que rien ne contracte et n'arrête depuis la terre encore mouillée, molle du déluge, jusqu'à Jésus-Christ, en bas un roi chantait, en haut mourait un dieu. Ce grand poème biblique, comme l'eût dit Lucien de Lubempré, « biblique, dit Zéphine, étonné, n'a rien de sèchement historique. Il est perpétuellement vivifié par la personnalité de Victor Hugo, qui s'objective en Bose. Quand le poète dit que les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, c'est ou bien pour rappeler de récentes bonnes fortunes ou pour en provoquer. Il cherche à convaincre les femmes que si elles ont du goût, elles aimeront non un freluquet, mais le vieux barde. Tout cela dit avec la syntaxe la plus libre et la plus noble, sans parler des vers trop illustres sur les yeux du jeune homme comparés à ceux du vieillard, avec préférence naturellement pour ce dernier. De quelle familiarité Hugo n'usse-t-il pas dans ce complet même pour asservir aux lois du vers celles de la logique? Le vieillard, qui revient vers sa source première, entre aux jours éternels et sort des jours changeants. En prose, on eût évidemment commencé par dire « sort des jours changeants ». Et il ne craint pas de jeter à la fin du vers, où elle s'anoblise des phrases tout à fait triviales. « Laissez tomber exprès les épis », disait-il. Tout le temps, des impressions personnelles, des moments vécus, soutiennent ce grand poème historique. C'est dans une impression ressentie sans aucun doute par Victor Hugo et non dans la Bible qu'il faut chercher l'origine des vers admirables. Quand on est jeune, on a des matins triomphants, le jour sort de la nuit ainsi qu'une victoire. Les pensées les plus indivisibles sont rendues au degré de fusion nécessaire. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre, et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante et moi mort à demi. La noblesse de la syntaxe ne fléchit pas même dans les vers les plus simples. Bose ne savait pas qu'une femme était là, et Ruth ne savait pas ce que Dieu voulait d'elle. Et dans ceux qui suivent, quel art suprême pour donner en redoublant les ailes une impression de légèreté fluidique. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgalla. Alfred de Vigny n'a pas procédé autrement. Pour insuffler une vie intense dans cet autre épisode biblique, la colère de Samson, c'est lui-même Vigny qui l'a objectivé en Samson. C'est parce que l'amitié de Madame d'Orval, pour certaines femmes, lui causait de la jalousie qu'il a écrit « La femme aura Gomorre et l'homme aura Sodome ». Mais l'admirable sérénité d'Hugo, qui lui permet de conduire Beaux endormis jusqu'à l'image pastorale de la fin, « Quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été, avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Cette sérénité qui assure le majestueux déroulement du poème ne vaut pas l'extraordinaire tension de celui d'Alfred de Vigny. Tout aussi bien dans ses poésies calmes, Vigny reste mystérieux. La source de ce calme, de son ineffable beauté, nous échappe. Victorio fait toujours merveilleusement ce qu'il faut faire. On ne peut pas souhaiter plus de précision que dans l'image du croissant. Même les mouvements les plus légers de l'air, nous venons de le voir, sont admirablement rendus. Mais là encore, la fabrication même de l'impalpable est visible. Et alors, au moment qui devrait être si mystérieux, il n'y a nulle impression de mystère. Comment dire en revanche, comment sont faits les vers mystérieux, ceux-là comme dans les balancements de ta taille penchée et dans ton pur sourire amoureux et souffrant, ou pleurant comme Diane au bord de ses fontaines, ton amour taciturne est toujours menacé. Ces quatre vers pris au hasard dans la maison du berger d'Alfred de Vigny. Bien des vers du balcon de Baudelaire donnent aussi cette impression de mystère, mais ce n'est pas cela qui est le plus frappant chez lui. À côté d'un livre comme Les fleurs du mal, comme l'œuvre immense d'Hugo paraît molle, vague, sans accent. Hugo n'a cessé de parler de la mort, mais avec le détachement d'un gros mangeur et d'un grand jouisseur. Peut-être, hélas, faut-il contenir la mort prochaine en soi, être menacé d'aphasie comme Baudelaire, pour avoir cette lucidité dans la souffrance véritable, ces accents religieux dans les pièces sataniques. Il faut que le gibier paye le vieux chasseur. Avez-vous donc pu croire, hypocrite surplis, qu'on se moque du maître et qu'avec lui l'on triche, et qu'il soit naturel de recevoir deux prix, d'aller au ciel et d'être riche? Peut-être faut-il avoir ressenti les mortelles fatigues qui précèdent la mort, pour pouvoir écrire sur elle le vers délicieux que jamais Victor Hugo n'aurait trouvé, et qui refait le lit des gens pauvres et nus. Si celui qui a écrit cela n'avait pas encore éprouvé le mortel besoin qu'on refit son lit, alors c'est une anticipation de son inconscient, un pressentiment du destin qui lui dicta un vers pareil. Aussi, je ne puis tout à fait m'arrêter à l'opinion de Paul Valéry, qui, dans un admirable passage de Palinos, fait ainsi parler Socrate, opposant un buste fait délibérément par un artiste à celui qu'a inconsciemment sculpté au cours des âges le travail des mers s'exerçant sur un rocher. Les actes éclairés, dit Valéry, prenant le nom de Socrate, abrègent le cours de la nature, et l'on peut dire en toute sécurité qu'un artiste vaut 1000 siècles ou 100 000 ou bien plus encore. Mais moi, je répondrai à Valéry, ces artistes harmonieux ou réfléchis, s'ils représentent 1000 siècles par rapport au travail aveugle de la nature, ne constituent pas eux-mêmes, les Voltaire par exemple, un temps indéfini par rapport à quelques malades, un Baudelaire, mais encore un Dostoïevski qui, en 30 ans, entre leurs crises d'épilepsie et autres, crée tout ce dont une lignée de 1000 artistes seulement bien portants n'aurait pu faire un alinéa. Bon, Socrate et Valéry nous ont interrompus comme nous citions le vers sur les pauvres. Personne n'a parlé d'eux avec plus de vraie tendresse que Baudelaire, ce dandy. Une bonne hygiène anti-alcoolique ne peut pas approuver l'éloge du vin. À ton fils, je rendrai la force et la vigueur, et serai pour ce frère athlète de la vie l'huile qui raffermit les membres du lutteur. Mais le poète pourrait répondre que c'est le vin et non lui qui parle. En tout cas, quel divin poème! Quel admirable style, tombe et caveau! Quelle cordialité humaine, quel tableau esquissé du vignoble! Bien souvent, le poète retrouve cette veine populaire. On sait les vers sublimes sur les concerts publics. Ces concerts riches de cuivre dont les soldats parfois inondent nos jardins, et qui par ces soirs d'or où l'on sent revivre verse quelque héroïsme au cœur du citadin. Il semble impossible d'aller au-delà. Et pourtant, cette impression, Baudelaire a su la faire monter encore d'un ton, lui donner une signification mystique dans le final et attendu où l'étrange bonheur des élus clôt une pièce sinistre sur les damnés. Le son de la trompette est si délicieux dans ces soirs solennels de céleste vendange qu'il s'infiltre comme une extase dans tous ceux dont elle chante les louanges. Ici, il est permis de penser que chez le poète, aux impressions du badaud parisien qu'il était, se joint le souvenir de l'admirateur passionné de Wagner. Quand même les jeunes musiciens actuels auraient raison, ce que je ne crois pas, en niant le génie de Wagner, des vers pareils prouveraient que l'exactitude objective des jugements qu'un écrivain porte sur telle œuvre appartenant à un autre art que le sien n'a pas d'importance, et que son admiration, même fausse, lui inspire d'utiles rêveries. Pour moi, qui admire beaucoup Wagner, je me souviens que dans mon enfance, au concert Lamoureux, l'enthousiasme qu'on devait réserver aux vrais chefs-d'œuvre comme Tristan ou les maîtres chanteurs était excité, sans distinction aucune, par des morceaux insipides comme la Romance à l'étoile ou la Prière d'Élisabeth du Tannhäuser. À supposer que, musicalement, je ne me trompasse pas, ce qui n'est pas certain, je suis certain que la bonne part n'était pas la mienne, mais celle des collégiens qui, autour de moi, applaudissaient indéfiniment à tout rompre, criaient leur admiration comme des fous, comme des hommes politiques, et sans doute, en rentrant, voyaient devant les yeux de leur esprit une nuit d'étoiles que la pauvre romance ne leur aurait pas suggérée, si elle avait apporté comme nom d'auteur, au lieu de celui alors honoré de Wagner, le nom décrié de Gounod. Depuis, les choses ont peu changé, et la nécessité de n'inscrire sur un menu musical que des œuvres françaises ou alliées fit sortir de la poussière Faust et Roméo. En pareille matière, le cuisinier n'a qu'à se conformer aux interdictions du médecin nationaliste. On change le nom des entremets, comme le nom des rues. Et de grands métaphysiciens purent faire une histoire de la philosophie universelle sans prononcer une seule fois les noms abhorrés de Leibniz, de Kant et de Hegel, sans compter les autres. Cela ne laissait pas de creuser quelques vides insuffisamment remplis par Victor Cousin. C'est dans les pièces relativement courtes, la pipe m'en semble le chef-d'œuvre, que Baudelaire est incomparable. Les longs poèmes, même le voyage, pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Et Jacques Boulanger, de beaucoup le meilleur critique, et bien plus que critique de sa génération, ose nous dire que la poésie de Baudelaire manque de pensée. Même ce sublime voyage qui débute si bien se soutient ensuite par de la rhétorique, et comme tant d'autres grandes pièces, comme Andromaque, je pense à vous, il tourne court, tombe presque à plat. Le voyage finit par, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, et Andromaque par, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. C'est peut-être voulu, ces fins si simples. Il semble, malgré tout, qu'il y ait là quelque chose d'écourté, un manque de souffle. Et pourtant, nul poète ne sent du renouvellement au milieu même d'une poésie. Parfois, c'est un brusque changement de ton. Nous avons déjà cité la pièce satanique, Harpagon qui veillait son père agonisant, finissant par « Le son de la trompette est si délicieux !» Un exemple plus frappant et que M. Fauré a admirablement traduit dans une de ses mélodies est le poème qui commence par « Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres » et continue tout d'un coup, sans transition, dans un autre ton, par ces vers qui, même dans le livre, sont tout naturellement chantés « J'aime de vos beaux yeux la lumière verdâtre ». D'autres fois, la pièce s'interrompt par une action précise. Au moment où Baudelaire dit « Mon cœur est un palais », brusquement, sans que cela soit dit, le désir le reprend, la femme le force à une nouvelle jouissance, et le poète, à la fois enivré par les délices à l'instant offertes et songeant à la fatigue du lendemain, s'écrie « Un parfumage autour de votre gorge nue, ô beauté, dur fléau des âmes, tu le veux, avec des yeux de feu brillants comme des fêtes, calcine ces lambeaux qu'ont épargné les bêtes. » Du reste, certaines pièces longues sont par exception conduites jusqu'à la fin sans une défaillance, comme les petites vieilles, dédiées à cause de cela, je pense, à Victor Hugo. Mais cette pièce si belle, entre autres, laisse une impression pénible de cruauté. Bien qu'en principe on puisse comprendre la souffrance et ne pas être bon, je ne crois pas que Baudelaire, exerçant sur ces malheureuses une pitié qui prend des accents d'ironie, se soit montré à leur égard cruel. Il ne voulait pas laisser voir sa pitié, il se contentait d'extraire le caractère d'un tel spectacle. De sorte que certaines strophes semblent d'une atroce et méchante beauté. Ou danse sans vouloir danser, pauvre sonnette. Je goûte à votre insu les plaisirs clandestins. Je suppose surtout que le vers de Baudelaire était tellement fort, tellement vigoureux, tellement beau, que le poète passait la mesure sans le savoir. Il écrivait sur ces malheureuses petites vieilles les vers les plus vigoureux que la langue française ait connus, sans songer plus à adoucir sa parole pour ne pas flageller les mourantes, que Beethoven, dans sa surdité, ne comprenait, en écrivant la symphonie avec cœur, que les notes n'en sont pas toujours écrites pour des gosiers humains, audibles à des oreilles humaines, que cela aura toujours l'air d'être chanté faux. L'étrangeté qui fait pour moi le charme enivrant de ces derniers quatuors les rend à certaines personnes qui enchérissent pourtant le divin mystère, inécoutable, sans qu'elles grincent des dents, autrement que transposées au piano. C'est à nous de dégager ce que contiennent de douleur ces petites vieilles, débris d'humanité pour l'éternité mûre. Cette douleur, le poète nous en torture plutôt qu'il ne l'exprime. Pour lui, il laisse une galerie de géniales caricatures de vieilles, comparables aux caricatures de Léonard de Vinci ou de portraits d'une grandeur sans égale, mais sans pitié. Celle-là, droite encore, fière et sentant la règle, humait avidement le chant vif et guerrier. Son œil parfois s'ouvrait comme l'œil d'un vieil aigle, son front de marbre avait fleur pour l'orlier. Ce poème des petites vieilles est un de ceux où Baudelaire montre sa connaissance de l'Antiquité. On ne la remarque pas moins dans Le Voyage, où l'histoire d'Electre est citée comme elle aurait pu l'être par Racine dans une de ses préfaces. Avec la différence que dans les préfaces des classiques, les allusions sont généralement pour se défendre d'un reproche. On ne peut s'empêcher de sourire en voyant toute l'Antiquité témoigner dans la préface de Phèdre que Racine n'a pas fait de tragédie où la vertu soit plus mise au jour que dans celle-ci. Les moindres fautes y sont sévèrement punies. La pensée du crime y est regardée avec autant d'horreur que le crime même. Les faiblesses de l'amour y passent pour de véritables faiblesses. Et le vice y est peint partout avec des couleurs qui en font haïr la difformité. Et Racine, cet habile homme, de regretter aussitôt de n'avoir pas pour juge Aristote et Socrate, qui reconnaîtraient que son théâtre est une école où la vertu n'est pas moins bien enseignée que dans les écoles des philosophes. Peut-être Baudelaire est-il plus sincère dans la pièce liminaire au lecteur, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Et en tenant compte de la différence des temps, rien n'est si baudelairien que Phèdre, rien n'est si digne de Racine, voire de Malherbe, que les fleurs du mal. Faut-il même parler de différence des temps? On n'a pas empêché Baudelaire d'écrire comme les classiques. C'est encore, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité. Ô Seigneur, donnez-moi la force et le courage. Ces bras vaincus, jetés comme de vaines armes, tout servait, tout paraît sa fragile beauté. On sait que ces derniers vers s'appliquent à une femme qu'une autre femme vient d'épuiser par ses caresses. Mais qu'il s'agisse de peindre Junie devant Néron, Racine parlerait-il autrement? Si Baudelaire veut s'inspirer d'Horace, encore dans une des pièces entre deux femmes, il le surpasse. Au lieu de « Animae dimidium mes » auquel il me semble bien difficile qu'il n'ait pas songé, il écrira « Mon tout et ma moitié ». Il faut du reste reconnaître que Victor Hugo, quand il voulait citer l'Antique, le faisait avec la toute-puissante liberté et la griffe dominatrice du génie, par exemple dans la pièce admirable qui finit par « Ni l'importunité des sinistres oiseaux » ce qui a la lettre « Importunique Walucres ». Je ne parle du classicisme de Baudelaire que selon la vérité pure, avec le scrupule de ne pas fausser par ingéniosité ce qu'a voulu le poète. Je trouve au contraire trop ingénieux et pas dans la vérité baudelairienne un de mes amis qui prétend que « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. » N'est autre chose que le « Pleurez, pleurez, mes yeux, et fondez-vous en eau » du Cid. Sans compter que je trouverais mieux choisi les vers de l'infante dans ce même Cid, sur le respect de sa naissance, un tel parallèle me semble tout à fait extérieur. L'exhortation que Baudelaire adresse à sa douleur n'a rien au fond d'une apostrophe cornélienne. C'est le langage retenu, frissonnant, de quelqu'un qui grelotte pour avoir trop pleuré. Ces sentiments que nous venons de dire, sentiments de la souffrance, de la mort, d'une humble fraternité, font que Baudelaire est pour le peuple et pour l'au-delà le poète qui en a le mieux parlé, si Victor Hugo est seulement le poète qui en a le plus parlé. Les majuscules d'Hugo, ses dialogues avec Dieu, tant de tintamarres ne valent pas ce que le pauvre Baudelaire a trouvé dans l'intimité souffrante de son cœur et de son corps. Au reste, l'inspiration de Baudelaire ne doit rien à celle du Hugo. Le poète qui aurait pu être imagier d'une cathédrale, ce n'est pas le faux Moyen-Âge Hugo. C'est l'impur dévot casuiste, agenouillé, grimaçant, maudit qu'est Baudelaire. Si leurs accents sur la mort, sur le peuple, sont si inégaux, si la corde chez Baudelaire est tellement plus serrée et vibrante, je ne peux pas dire que Baudelaire surpasse Hugo dans la peinture de l'amour. Et ah, cette gratitude infinie et sublime qui sort de la paupière ainsi qu'un long soupir, je préfère les vers d'Hugo. Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons. L'amour, du reste, selon Hugo et selon Baudelaire, sont si différents. Baudelaire n'a vraiment puisé chez aucun autre poète les sources de son inspiration. Le monde de Baudelaire est un étrange sectionnement du temps où seuls de rares jours notables apparaissent. ce qui explique les fréquentes expressions telles que « si, quelque soir », etc. Quant au mobilier baudelairien, qui était sans doute celui de son temps, qu'il serve à donner une leçon aux dames élégantes de nos 20 dernières années, lesquelles n'admettaient pas dans leur hôtel la moindre faute de goût, que devant la prétendue pureté du style qu'elles ont pris tant de peine à atteindre, elles songent qu'on a pu être le plus grand et le plus artiste des écrivains en ne peignant que des lits à rideaux refermables. Pièce condamnée, des halles pareilles à des serres, une martyre, des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, des étrangères avec des étagères avec des fleurs, des lampes qui ne brûlaient pas très longtemps, pièce condamnée, si bien qu'on n'était plus éclairé que par un feu de charbon. Monde baudelairien qui vient par moments mouiller et enchanter un souffle parfumé du large, soit par réminiscence, la chevelure, etc., soit directement grâce à ces portiques dont il est souvent question chez Baudelaire, ouverts sur des deux inconnus, la mort, ou que les soleils marins teignaient de mille feux, la vie antérieure. Nous disions que l'amour baudelairien diffère profondément de l'amour d'après Hugo. Il a ses particularités, et dans ce qu'il a d'avoué, cet amour semble chérir chez la femme avant tout les cheveux, les pieds, les genoux, toison boutonnant jusque sur l'encolure, cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues dans la chevelure. Et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles, dans le balcon. Et depuis tes pieds frais jusqu'à tes noires tresses, j'aurais déroulé trésor des profondes caresses. Évidemment, entre les pieds et les cheveux, il y a tout le corps. On peut pourtant penser que Baudelaire se serait longtemps arrêté aux genoux quand on voit avec quelle insistance il dit dans les fleurs du mal « Oh, laisse-moi le front posé sur vos genoux. » Chant d'automne. Dit celle dont jadis nous baisions les genoux dans le voyage. Il n'en reste pas moins que cette façon de dérouler le trésor des profondes caresses est un peu spéciale. Et il en faut venir à l'amour selon Baudelaire, tout en taisant ce qu'il n'a pas cru devoir dire, ce qu'il a tout au plus par instant insinué. Quand parurent les fleurs du mal, Sainte-Beuve écrivit naïvement à Baudelaire que ces pièces réunies faisaient un tout autre effet. Cet effet, qui semble favorable aux critiques dès lundi, est effrayant et grandiose pour quiconque, comme tous ceux de mon âge, ne connut les fleurs du mal que dans l'édition expurgée. Certes, nous savions bien que Baudelaire avait écrit des femmes damnées, et nous les avions lus. Mais nous pensions que c'était un ouvrage non seulement défendu, mais différent. Bien d'autres poètes avaient eu eux aussi leur petite publication secrète. Qui n'a lu les deux volumes de Verlaine, d'ailleurs aussi mauvais que les femmes damnées sont belles, intitulés « Hommes, femmes ». Et au collège, oh, les élèves se passent de main en main des ouvrages de pornographie pure qu'il croit d'Alfred de Musset, sans que j'aie songé depuis à m'informer si l'attribution est exacte. Il en va tout autrement de femmes damnées. Quand on ouvre un Baudelaire conforme à l'édition primitive, par exemple le Baudelaire de M. Félix Gautier, ceux qui ne savaient pas sont stupéfaits de voir que les pièces les plus licencieuses, les plus crues sur les amours entre femmes, se trouve là et que dans sa géniale innocence, le grand poète avait donné dans son livre à une pièce comme Delphine autant d'importance qu'au voyage lui-même. Ce n'est pas que pour ma part, je souscrive d'une façon absolue au jugement que j'ai jadis entendu émettre par M. Anatole France, à savoir que c'était que Baudelaire avait écrit du plus beau. Il y en a de sublimes, mais d'autres à côté de cela, qui sont rendues irritantes par des vers tels que « Laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère. » André Chénier a dit qu'après 3000 ans, Homère était encore jeune. Mais combien plus jeune encore Platon ? Quel vers de la vie ignorant ! Et d'autant plus surprenant que Baudelaire avait une tournure d'esprit philosophique, distinguait volontiers la forme de la matière qui la remplit. Alors la beauté dit à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Ou, réponds, cadavre impur, ton époux court le monde et ta forme immortelle. Et malheureusement, à peine a-t-on eu le temps de noyer sa rancœur dans les vers suivants, les plus beaux qu'on ait jamais écrits, la forme poétique adoptée par Baudelaire ramènera au bout de 5 vers. Laisse le vieux Platon se froncer l'œil austère. Il donne les plus beaux effets dans le balcon, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon, vers auquel je préfère d'ailleurs dans les bijoux, et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre. Mais dans les pièces condamnées, elle est fatigante et inutile. Quand on a dit au premier vers, pour savoir si la mère est indulgente et bonne, à quoi bon redire au cinquième, pour savoir si la mère est indulgente et nourrie et jeune? Il n'est pas moins vrai que les magnifiques pièces ajoutées aux autres font, comme écrivait Sainte-Beuve, sans savoir si bien dire, un tout autre effet. Elles reprennent leur place entre les plus hautes pièces du livre comme ces lampes altières de cristal qui s'élèvent majestueusement après les soirs de tempête et qui élargissent de leurs cimes intercalées l'immense tableau de la mer. L'émotion est accrue encore quand on apprend que ces pièces n'étaient pas là seulement au même titre que les autres, mais que pour Baudelaire, elles étaient tellement les pièces capitales qu'il voulait d'abord appeler tout le volume non pas les fleurs du mal, mais les lesbiennes, et que le titre beaucoup plus juste et plus général de fleurs du mal, ce titre que nous ne pouvons plus désintégrer aujourd'hui de l'histoire de la littérature française, ne fut pas trouvé par Baudelaire, mais lui fut fourni par Babou. Il n'est pas seulement meilleur. S'étendant à autre chose qu'aux lesbiennes, il ne les exclut pas, puisqu'elles sont essentiellement, selon la conception esthétique et morale de Baudelaire, des fleurs du mal. Mais comment a-t-il pu s'intéresser si particulièrement aux lesbiennes que d'aller jusqu'à vouloir donner leur nom comme titre à tout son splendide ouvrage? Quand Vigny, irrité contre la femme, l'a expliqué par le mystère de l'allaitement, il rêvera toujours à la chaleur du sein, par la physiologie particulière à la femme. Je n'ose plus parler des procédés de Sainte-Beuve à l'égard de Baudelaire. J'ai appris en effet que j'avais été devancé par M. Fernand Van der Hem, lequel, dans une remarquable brochure, en discutant d'une façon irréfutable des textes incontestés, a établi l'affreuse vérité. Enfant malade et toutefois impur par sa psychologie, toujours ce compagnon dont le cœur n'est pas sûr, on comprend que dans son amour déçu et jaloux, il est écrit « La femme aura Gomorre et l'homme aura Sodome », mais du moins c'est en irréconciliables ennemis qu'il les pose loin de l'autre. Et, se jetant de loin, un regard irrité, les deux sexes mourront chacun de son côté. Il en est nullement de même pour Baudelaire. Car Lesbos, entre tous, m'a choisi sur la terre pour chanter le secret de ses vierges en pleurs, et je fus dès l'enfance admis au noir mystère. Cette liaison entre Sodome et Gomorre, que dans les dernières parties de mon ouvrage, et non dans la première Sodome qui vient de paraître, j'ai confié à une brute, Charles Morel, Ce sont du reste les brutes qui seront les d'habitude réparties. Il semble que Baudelaire s'y soit de lui-même affecté et d'une façon toute privilégiée. Ce rôle, combien il eût été intéressant de savoir pourquoi Baudelaire l'avait choisi, comment il l'avait rempli. Ce qui est compréhensible chez Charles Morel reste profondément mystérieux chez l'auteur des Fleurs du Mal. Après ces grands poètes, oh, j'ai pas eu le temps de parler du rôle des cités antiques dans Baudelaire et de la couleur écarlate qu'elles mettent ça et là dans son œuvre. On ne peut plus, avant le Parnasse et le symbolisme, desquels nous ne parlerons pas aujourd'hui, citer de véritables génies. Musset est malgré tout un poète de second ordre, et ses admirateurs le sentent si bien qu'ils laissent toujours reposer pendant quelques années une partie de son œuvre, quitte à y revenir quand ils sont fatigués de cultiver l'autre. Lassés par le côté déclamatoire des nuits, qui sont pourtant sévères, quoi il attendu, ils font alterner avec elles de petits poèmes, plus ennuyeuses que Milan, ou du motus deux ou trois fois du Concilio danse, mais un peu plus loin, la même pièce des vers sur Venise, où il a laissé son cœur décourage. On essaie alors des poésies simplement documentaires, qui nous montrent ce qu'étaient au temps de Musset les bals de la Season. Ce bric-à-brac ne suffit pas pour faire un poète, malgré le désopilant enthousiasme avec lequel M. Taine à parler de la musique, de la couleur, etc., de ces poésies-là. Alors, on revient aux nuits et à l'espoir en Dieu. Paroles-là, qui ont eu le temps de se rafraîchir un peu. Seules des pièces délicieuses comme Namouna demeurent vivaces et donnent des fleurs toute l'année. C'est encore un bien plus bas échelon qu'est le noble Sully Prudhomme, au profil, au regard à la fois divin et chevalin, mais qui n'était pas un bien vigoureux Pégase. Il a des débuts charmants d'élégiaque. Aux étoiles, j'ai dit un soir, vous me semblez pas heureuse. Malheureusement, cela ne s'arrête pas là, et les deux vers suivants sont quelque chose d'affreux que je ne me rappelle plus très bien. Vos lueurs dans l'infini noir ont des tendresses douloureuses. Puis à la fin, deux vers charmants. Ailleurs, il confesse avec grâce, « Je n'aime pas les maisons neuves, elles ont l'air indifférents. » Hélas, il ajoute aussitôt quelque chose comme ceci, « Les vieilles ont l'air de veuves qui se souviennent en pleurant. » Quelquefois, nos envois au lecteur sont dignes de ceux de Musset, moins alerte, plus pensif et plus sensible, somme charmant. Tout cela laisse tout de même bien loin de soi le romantisme et la grande Valmore. Seul, avant le Parnasse et le symbolisme, un poète continue bien diminuer la tradition des grands maîtres. C'est le comte de Lille. Certes, il a utilement réagi contre un langage qui se relâchait. Pourtant, il ne faut pas le croire trop différent de ce qu'il a précédé. Petit jeu, voici deux vers. La neige tombe en paix sur tes épaules nues. Et l'aube au flanc noir des monts marche d'un pied vermeil. Eh bien, le premier, très le comte de Lille, est d'Alfred de Musset dans La coupe et les lèvres. Et le second est de le comte de Lille, dans son plus ravissant poème, peut-être, La fontaine aux lianes. Le comte de Lille a épuré la langue, l'a purgé de toutes les sottes métaphores pour lesquelles il était impitoyable. Mais lui-même a usé, et avec quel bonheur, de l'aile du vent. Ailleurs, c'est le rire amoureux du vent, les gouttes de cristal de la rosée, la robe de feu de la terre, la coupe du soleil, la cendre du soleil, le vol de l'illusion. Je l'ai vu, écoutant d'un regard sarcastique les plus belles pièces de Musset, Oh, il n'est souvent lui-même qu'un Musset plus rigide, mais aussi déclamatoire. Et la ressemblance est quelquefois si hallucinante que j'avoue ne pas arriver à me souvenir si tu ne sommeillais pas calme comme Ophélie, que je suis pourtant persuadé être de le comte de Lille n'est pas de Musset, tant cela ressemble à un vers de ce dernier. Le comte de Lille, sans préjudice des images des autres, avait ses bizarres façons de dire à lui. Toujours les animaux étaient le chef, le roi, le prince de quelque chose, absolument comme Midi est roi des étés. Il ne disait pas le lion, mais « Voici ton heure, ô roi, Lucifer, ô chef !» Le tigre, mais le seigneur rayé. La panthère noire, mais la reine de Java, la noire chasseresse. Le jaguar, mais le chasseur au beau poil. Le loup, mais le seigneur du hard. L'albatros, mais le roi de l'espace. Le requin, mais le sinistre rôdeur des steppes de la mer. Arrêtons-nous, parce qu'il a eu encore tous les serpents. Plus tard, il est vrai, il a renoncé aux métaphores, et comme Flaubert, avec lequel il a tant de rapports, n'a pas voulu que rien n'interposât entre les mots et l'objet. Dans le lévrier de Magnus, il parle du lévrier avec la parfaite ressemblance qu'aurait eu Flaubert dans la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. L'arc vertébral tendu, nœud par nœud, étage, il a posé sa tête aiguë entre ses pattes, et c'est tout le temps si bien. Malgré cela, nous n'aurions pas cité le comte de Lille comme le dernier poète de quelque talent. Avant le Parnasse, c'est le symbolisme. S'il y avait chez lui une source délicieuse et nouvelle de poésie, un sentiment de la fraîcheur, apporté sans doute des pays tropicaux où il avait vécu. Je n'ai là-dessus aucun renseignement, et je regrette, avant de vous écrire, mon cher Rivière, de ne pas avoir été en état d'aller trouver un grand poète dont le comte de Lille favorisa paternellement les débuts. Madame Henri de Régnier, oh, elle eut sans doute ça et là, rectifié d'un mot juste une affirmation qui ne l'est peut-être plus. Mais nous n'avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'essayer de lire ensemble de mémoire à haute voix et en nous fiant à notre seul sens critique. Or, si, sans renseignement d'aucune sorte, on laisse seulement revenir d'eux-mêmes dans sa mémoire quelques vers bien choisis de le comte de Lille, on est frappé du rôle que, non pas seulement le soleil, mais les soleils, ne cessent d'y jouer. Je ne parle plus de la cendre du soleil qui revient tant de fois, mais des joyeux soleils des naïves années, des stériles soleils qui ne sont plus que cendres, de tant de soleils qui ne reviendront plus, etc. Sans doute tous ces soleils traînent après eux bien des souvenirs, des théogonies antiques. L'horizon est divin, la vie antique est faite inépuisablement, le tourbillon sans fin des espérances vaines. Ces soleils, l'esprit qui les songea les entraîne au néant. Cet idéalisme subjectif nous ennuie un peu, mais on peut le détacher. Il reste la lumière et ce qui le compense délicieusement, la fraîcheur. Baudelaire se souvenait bien de cette nature tropicale. Même derrière la muraille immense du brouillard, il faisait évoquer par sa négresse les cocotiers absents de la superbe Afrique. Mais cette nature, on dirait qu'il ne l'a vue que du bateau. Le comte de Lille, lui, y a vécu, en a surpris et savouré toutes les heures. Quand il parle des sources, on sent bien que ce n'est pas en rhéteur qu'il emploie les verbes germer, circuler, filtrer. Le simple mot de gravier n'est pas mis par lui au hasard. Quel charme quand il va se réfugier près de la fontaine aux lianes, lieu réservé presque à lui seul. Qui, dès le premier jour, n'a connu que peu d'hôtes? Le bruit n'y monte pas de la mer sur les côtes, ni la rumeur de l'homme, on n'y peut oublier, ce sont des cœurs soudains de chansons infinies. Là, l'azur est si doux qu'il suffit à sécher les plumes des oiseaux. L'oiseau, tout couvert d'étincelles, montait sécher son aile dans une des pièces, à la brise plus chaude dans l'autre, au tic de firmament. À peine une échappée d'insolente et bleue laissait-elle entrevoir en ce pan du ciel pur vers Rodrigue où s'élant le vol des pailles en queue comme un flocon de neige égaré dans le dire. Est-ce que ce n'est pas bien joli, mon cher Rivière? Et bien au-dessous de Baudelaire, ne nous devrions pas, pourtant, le rappeler de si charmants vers au lecteur d'aujourd'hui qui en lit de si mauvais. Les Français, depuis quelque temps, ont appris à connaître les églises, tout le trésor architectural de notre pays. Il serait bon de ne pas laisser pour cela tomber dans l'oubli ces autres monuments, riches aussi de formes et de pensées, qui s'élèvent au-dessus des pages d'un livre. Marcel Proust. Quand j'écris cette lettre à Jacques Rivière, je n'avais pas auprès de mon lit un malade un seul livre. On excusera donc l'inexactitude possible et facile à rectifier de certaines citations. Je ne prétendais que feuilleter ma mémoire et orienter le goût de mes amis. J'ai dit à peine la moitié de ce que je voulais et par conséquent, bien plus du double de ce que je m'étais promis, et qui, plus condensé, moins encombré de citations, orné d'autres plus frappantes qui reviennent en ce moment du fond de mon souvenir, comme pour se plaindre de ne pas avoir eu leur place, eût été infiniment plus court. Parmi les remarques que j'ai omises, l'une donne raison à M. Lalévy qui me reprochait, suivant en cela Sainte-Beuve, de dire adjectif descriptif comme si rien ne pouvait tout aussi bien décrire et du même coup à ceux qui ne comprennent pas que, selon moi, il n'y ait qu'une seule manière de peindre une chose. En effet, dans la chevelure, Baudelaire dit « Un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur ». Et dans le poème en prose correspondant, où se prélasse l'éternelle chaleur. Bien, il y a donc deux versions également belles, et de plus, les deux fois, l'épithète est un verbe. J'ajoute que personne ne m'écrit cela, et que c'est mon propre souvenir qui casse le nez, comme dit Molière, à mon raisonnement. Je persiste à croire que l'agréable passage de Sainte-Beuve, cité il y a environ un an par M. Halévy, et que je connaissais fort bien, n'a rien de si remarquable. Et que même s'il n'y a pas lieu de s'extasier sur les vers de Virgile, si juste que cite l'auteur des lundis, naturellement condamné depuis tant d'années à vivre dans une chambre aux volets fermés, qu'éclaire la seule électricité, j'envie les belles promenades du sage de Mantoue. Mais pour lui qui a passé une partie de sa vie à écrire les géorgiques et les bucoliques, il serait un peu fort qu'il n'eût jamais eu l'idée de regarder le ciel et la disposition des nuages par un temps pluvieux. C'est charmant, mais il n'y a pas de quoi se récrier sur une simple observation. Chateaubriand, lui, avait sur ce même sujet des nuages, bien plus que des observations, des impressions, ce qui n'est pas la même chose, et génialement exprimé. Tout ceci ne touche en rien à mon admiration pour Virgile. Le danger d'articles comme celui de Sainte-Beuve, c'est que quand une George Sand ou un Fromentin ont des traits pareils, on ne soit tenté de les trouver dignes de Virgile, ce qui ne veut rien dire du tout. De même, on dit aujourd'hui d'écrivains qui n'emploient que le vocabulaire de Voltaire, il est écrit aussi bien que Voltaire. Non! Pour écrire aussi bien que Voltaire, il faudrait commencer par écrire autrement que lui. Un peu de ce malentendu règne dans la Renaissance qui s'est faite autour du nom de Moréas. Ce n'est pas le seul. On mène grand bruit autour de Toulet, qui vient de mourir. Tous ses amis, au reste, affirment, je le crois volontiers, que c'était un être délicieux. Et les gens divers de lui que j'ai entendu citer, souvent fort gracieux, s'élèvent parfois une véritable éloquence. Mais voilà-t-il pas que notre si distingué collaborateur, M. Allard, vient faire de la minceur même de son œuvre une raison pour qu'elle survive à jamais. Avec un si léger bagage, oh, dit-il à peu près, on se glisse plus aisément jusqu'à la postérité. Ah, avec de pareils arguments, dirais-je à mon tour, il n'y a rien qu'on ne puisse prétendre. La postérité se soucie de la qualité des œuvres, elle ne juge pas sur la quantité. Elle retient les immenses noces de Cana ou les mémoires de Saint-Simon, aussi bien qu'un rondel de Charles d'Orléans ou un minuscule d'Ivamer. Le raisonnement de M. Allard m'a fait par contraste penser à une phrase tout opposée, inexacte, absurde de Voltaire, une phrase si abusante, quoique si fausse, que je regrette de ne pas la citer exactement. Le Dante est assuré de survivre, on le lit peu.